Vous êtes sur RTL.
Sur RTL. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous allez refaire le match avec Christian Olivier ce soir, avec ses chroniqueurs en direct du pied de la Tour Eiffel à l'occasion de la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Et d'ailleurs, la présidente de Coca-Cola France, partenaire de l'événement, sera dans ce journal dans un contexte, vous le savez, de défiance vis-à-vis des conditions d'organisation au Qatar. Donc rendez-vous pour la Coupe du Monde à 18h30. À la une ce soir, deux événements qui pourraient faire date dans la guerre en Ukraine. Tout d'abord, la destruction partielle du pont de Crimée, symbole fort pour Poutine, coup très dur sur le plan logistique et militaire pour la Russie, 8 ans après l'annexion de la Crimée. L'explosion aurait fait 3 morts, un camion piégé selon Moscou, mais Kiev n'a rien revendiqué et évoque même la piste russe ce soir. Et puis Moscou qui coupe une tête, la tête, et annonce ce soir le remplacement du commandant de son offensive en Ukraine. On va en parler dans quelques minutes avec Nicolas Tenzer, spécialiste des questions internationales, directeur de Desk Russie. À la une également, un samedi à la recherche d'une pompe pour de nombreux automobilistes. Faire le plein reste très compliqué après 11 jours de grève des raffineurs CGT. Le mouvement a été reconduit aujourd'hui. Près de 20% des stations en France sont à sec, c'est une moyenne. Certaines régions comme le Nord ou l'Île-de-France sont très impactées. Il faut parfois des heures d'attente quand on a la chance de trouver une station ouverte. Nous irons dans le Nord où pourtant le préfet a pris des mesures exceptionnelles. De nombreuses questions ce soir après l'arrestation d'un jeune de 19 ans à Château-Thierry dans la Marne hier soir. Il a agressé au couteau 6 personnes dont sa mère, son frère et un enfant de 13 ans. Dans sa fuite, il a sorti un tapis de prière coranique, entonné des incantations avant d'être interpellé. Il est d'ailleurs hospitalisé. Il était totalement inconnu de la justice. Dans ce journal, on va revenir sur la colère policière après l'éviction du préfet de la PJ Sud, Eric Arella. Il a fait les frais d'un mouvement d'humeur des policiers marseillais lors de la visite du patron de la police nationale, et cela dans le contexte de réforme de la PJ. Marseille, où certains policiers ne veulent pas en rester là, ils décident de déposer les armes et de suspendre certaines opérations. Le football, la 10e journée de Ligue 1 depuis 17h, Marseille affronte Ajaccio au stade Vélodrome. Ça doit être la mi-temps, Eric Martin.
Et oui, ça va reprendre dans quelques instants, mais pour le moment, un but partout, score de parité entre les deux équipes. Payet qui a marqué sur un pénalty son 100e but avec l'Olympique de Marseille à la 15e minute de jeu. Égalisation ajaxienne à la 25e de Moussiti Eko.
Merci Eric, on vous retrouve dans 20 minutes ce soir, 21h, Reims-PSG à suivre dans RTL Foot. Le quintet à Caen aujourd'hui, 2, 3, 6, 7 et As. Le temps, bonsoir Valérie Quintin, encore beau demain, mais la matinée sera bien fraîche.
Bonsoir Vincent, oui c'est vrai que demain matin sera quand même assez frais, 0 à 16 degrés au réveil des Ardennes à la Corse avec 1 degré à Beauvais, 4 degrés à Rouen, 6 à Paris, 9 degrés pour Mâcon et Bordeaux, un ciel globalement bien dégagé, un petit peu moins brouillard qu'aujourd'hui, on en trouvera quelques-uns entre la Garonne et la Saône, en général rien de plus, il y aura toujours de l'instabilité orageuse des Alpes à la Corse, pour les autres un ciel bien dégagé, dans l'après-midi le soleil va s'installer pratiquement partout, excepté dans l'extrême sud-est, principalement entre les Alpes du Sud et la Corse où il y aura encore quelques orages et des averses sont à prévoir également des Alpes du Nord jusqu'au Roussillon. Les températures de l'après-midi seront comprises entre 17 et 27 degrés, 19 pour Lille, 20 degrés à Paris, 22 à Marseille comme à Rennes, 24 degrés à Toulouse et 26 degrés à Bordeaux.
Merci Valérie.
RTL Soir avec Vincent Parisot.
La grève de la CGT chez Total Energy et ExxonMobil a donc été reconduite aujourd'hui et 3 des 6 raffineries françaises restent à l'arrêt. La CGT propose des négociations uniquement salariales dès lundi prochain. Négociations que Total entend toujours ouvrir à partir du 15 novembre. On en est là sur ce plan des négociations. Sur le terrain, le gouvernement a assoupli les règles de transport des carburants pour ce week-end. Objectif réapprovisionner les stations qui sont à sec, environ 20% au niveau national. C'est une moyenne, mais dans certaines régions, et pas seulement en Île-de-France, trouver une pompe relève du défi. Et une fois trouvée, il faut ensuite être très, très patient. C'est le Nord qui a été le plus impacté en premier, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous l'avez constaté, Antoine Decarne, à Marc-en-Barœul, près de Lille, la pompe est vide.
Oui, le panneau lumineux est éteint, mais les automobilistes affluent tout de même. Gary a tenté sa chance.
La pompe est actuellement indisponible.
Ça marche pas.
On le fera au lundi. On va pas pouvoir aller travailler. Et je fais un petit peu toutes les pompes, mais toujours en rupture.
Et ici ce matin, la file d'attente était longue d'une heure. Tout est parti très rapidement. Et désormais, on essaie de s'entraider.
Il n'y a pas de gasoil, madame.
Sans plomb 95, ben nous, il n'y en a pas non plus. Je sais pas pourquoi c'est ouvert.
Et d'après les services de la région, une station essence sur deux n'a pas de carburant dans les Hauts-de-France. Et malgré les trois stations réservées aux professionnels de santé dans le Nord, Andy, ambulancier, a du mal.
C'est une vraie galère. Depuis tout à l'heure, on tourne entre deux patients. On essaie. Dès qu'on est dans le coin, on voit une station, on essaye d'y aller.
Vous avez vu les stations qui ont été réservées pour le personnel de santé
Non, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, pour y accéder, c'est galère. Et les gens, ils ne vous laissent pas passer ou quoi que ce soit. Hein.
C'est vraiment dans la métropole lilloise que ça bloque le plus. Les stations belges plus chères de 10 centimes, situées à 15 km, sont désormais prises d'assaut. Et Greg hésite à y aller.
Si c'est pour y aller et qu'il n'y en a pas, ça va faire 20 km pour rien. Alors, on est désespéré.
Et les nouvelles ne sont pas bonnes au dépôt de Fort Mardic, près de Dunkerque, le mouvement social à l'origine des difficultés dans la région a été reconduit par la CGT.
Reportage signé Antoine Decarne à Marc Cambareul pour RTL. Et puis un chèque est annoncé pour ceux qui se chauffent au fioul. Une aide de 100 à 200 euros selon les revenus. Ce chèque sera envoyé dès le 8 novembre. Il faudra aller sur le site chèqueénergie.fr pour le réclamer. La moitié des ménages qui ont une cuve pourraient en bénéficier, c'est-à-dire environ 1 400 000 foyers. Moscou a donc annoncé dans l'après-midi le remplacement du commandant de son opération militaire en Ukraine. Le nouveau patron est le général d'armée Sergueï Sourovikine, vétéran de la Tchétchénie et de la Syrie. Décision qui intervient après une série de revers cuisants sur le terrain, des signes de mécontentement de plus en plus forts et exprimés au sein des élites russes sur ce conflit, mais aussi quelques heures après un coup très dur pour Vladimir Poutine, vous en avez sans doute entendu parler. Les images de l'explosion et des dégâts provoqués sont très spectaculaires. Le pont de Crimée, infrastructure clé pour l'armée russe, symbole de l'annexion de ce territoire par Moscou en 2014, est désormais difficilement praticable, même s'il est officiellement rouvert aux voitures comme aux trains. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Alors 12 heures après, sait-on ce qui s'est passé ?
Eh bien, officiellement, c'est un camion piégé qui a provoqué l'explosion de 7 wagons-citernes. Ils circulaient sur la partie ferroviaire du pont au-dessus des voitures. La commission d'enquête affirme avoir identifié le propriétaire du véhicule décédé dans l'explosion. Il habitait Krasnodar, dans le sud de la Russie. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire il y a quelques minutes à la présidence ukrainienne que l'enquête suggérait une piste russe. Le camion est entré sur le pont depuis le côté russe. C'est donc en Russie qu'il faut chercher les réponses, a déclaré un conseiller de Volodymyr Zelensky. Une déclaration un peu étonnante quand on sait que ce même conseiller écrivait il y a encore quelques heures sur les réseaux sociaux en parlant de la destruction du pont. Tout ce qui a été construit illégalement doit être détruit. Or, l'Ukraine considère que l'édifice bâti par la Russie après l'annexion de la Crimée est illégal. Le chef de l'Assemblée de Crimée a lui dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Mais une chose est sûre, ce soir, selon les observateurs, cet attentat est un véritable travail de professionnel.
Merci Sophie Jousselin, invitée d'RTL Soir, Nicolas Tenzer. Bonsoir.
Bonsoir.
Expert en relations internationales, directeur de la publication Desk Russie, enseignant à Sciences Po, merci d'être avec nous. On l'a dit, pour l'instant, les Ukrainiens n'ont rien revendiqué et évoquent même une piste russe. Qui peut être à l'origine de cette attaque, selon vous ?
Écoutez, d'après moi, ce seront quand même plutôt les Ukrainiens, parce que ça fait très longtemps que le pont de Kerch était quand même un objectif militaire absolument essentiel, parce qu'il vise à empêcher l'approvisionnement à la fois de matériel, mais également de vivres pour la Crimée. Et que donc c'est un objectif stratégique tout à fait important. La version russe qui est indiquée, selon laquelle c'était une voiture piégée aujourd'hui, encore une fois je suis très prudent, paraît peu crédible parce qu'il s'agit quand même de forces assez importantes dont on peut difficilement penser qu'elles soient malgré tout uniquement localisées dans une voiture. Mais ceci voilà, est une question encore une fois très, très sensible et encore difficile, je dirais, à éclaircir complètement.
Ouais, alors, c'est en tout cas plus qu'un pont éventré, vous l'avez dit, c'est un lien stratégique très important. C'est aussi un symbole, notamment pour Vladimir Poutine, qu'il avait inauguré lui-même en conduisant le premier camion après l'annexion de la Crimée. On peut dire même que c'est une humiliation.
Oui, bien sûr, c'est une humiliation, ce qui vient d'ailleurs après un certain nombre de frappes ukrainiennes sur des bases russes situées en Crimée. Je crois que c'est évidemment quelque chose de très important, parce qu'il est clair que la Crimée appartient à l'Ukraine, que quand on parle d'intégrité territoriale de l'Ukraine, il est évident que la Crimée en fait partie, au même titre que le Donbass, la région de Kherson, etc. Donc, bien sûr, c'est une forte défaite pour Poutine. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit avec l'émission de nouveaux timbres-poste poste, par la poste ukrainienne, c'est vraiment quelque chose symboliquement qui est extrêmement fort. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a encore quelques semaines, je discutais avec des analystes militaires ukrainiens qui disaient qu'il était même possible, évidemment c'est une hypothèse à considérer avec prudence, que la Crimée pourrait être reprise par l'Ukraine, peut-être même plus vite que le Donbass.
Est-ce que ça peut rester sans réponse de la part de Moscou ?
Mais écoutez, le vrai problème, c'est quel type de réponse ? Parce que quand on avait vu les frappes russes déjà sur des bases militaires en Crimée auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, il n'y avait pas eu véritablement de réponse de la part du Kremlin. Donc là, évidemment, on peut se demander quelles vont être les réponses. Est-ce qu'il y aura de nouveaux bombardements sur des villes ukrainiennes ? Mais ça, de toute manière, on le craint depuis longtemps. On ne voit pas d'opération majeure. En tout cas, l'armée russe est quand même dans un piteux état aujourd'hui. Donc on ne voit pas quel type de réponse nouvelle, en quelque sorte, le Kremlin pourrait apporter.
En tout cas, il y a une information nouvelle qui est tombée dans la journée, quelques heures après l'explosion sur ce pont. C'est ce changement de tête à la tête de la guerre en Ukraine, de l'opération militaire.
Oui, en fait, elle était attendue depuis un certain temps parce que des responsables précédents avaient été limogés. Ils étaient extrêmement critiqués par un certain nombre de personnes proches de Vladimir Poutine. La réalité, c'est que les changements de tête ne changeront rien parce que l'état de l'armée russe donc, est tout à fait déplorable. Il y a très peu, par exemple, de liaisons entre les forces armées aériennes, terrestres, maritimes, sans même parler des satellites. On le voit, par exemple, si on voit l'OTAN, le processus de transformation des armées de l'OTAN, ça a pris 8-10 ans. Et c'est pas uniquement parce qu'on va mettre un nouveau chef à la place que l'armée russe, dont les dysfonctionnements sont à peu près à l'image d'ailleurs de d'autres services publics, l'école, la recherche, les hôpitaux dans le pays, fonctionnerait mieux.
Merci Nicolas Tenzer d'être intervenu ce soir en direct sur RTL, directeur de la publication de Desk Russie. En Irlande, 10 personnes, dont 2 adolescents et une fillette, ont été tuées dans l'explosion d'une station-service. Ça s'est passé dans un village du Nord-Ouest, sans doute un accident, selon les premiers éléments de l'enquête. Et puis en Allemagne, le trafic ferroviaire a été totalement paralysé dans le nord du pays ce matin, selon la compagnie nationale. C'est un acte de sabotage qui est à l'origine de cette paralysie. Une courte pause et puis dans un instant, cette attaque au couteau qui a fait 6 blessés à Château-Thierry dans l'Aisne hier soir et des interrogations sur la motivation de l'agresseur. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parisot.
Un homme a donc attaqué 6 personnes au couteau, dont sa mère et son frère, hier soir à Château-Thierry dans l'Aisne. Un homme jeune de 19 ans que les policiers ont finalement interpellé à genoux sur un tapis de prière en faisant des incantations, Maxime Lévy.
Oui, le jeune homme a poignardé à la poitrine hier soir sa mère et son petit frère de seulement 11 ans. Mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Alors que la mère de famille se rendait au commissariat pour dénoncer les faits, le jeune homme prend la fuite, le couteau à la main. Sur son passage, il blesse 4 passants, dont un enfant de 13 ans. Une patrouille de police tente de l'interpeller et lui tire dans la jambe alors que le jeune homme jette son couteau dans leur direction. Blessé, il sort de son sac, vous l'avez dit, un tapis de prière et un Coran. Face aux agents, il s'agenouille et commence à bredouiller des paroles. C'est là qu'il se fait emmener par les policiers. Le jeune homme est inconnu des services de police et de justice et ne fait, semble-t-il, pas non plus l'objet d'une alerte particulière. L'enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Pour l'heure, le motif terroriste, même s'il n'est pas écarté, ne semble pas privilégié.
Maxime Lévy, Alliance, l'un des principaux syndicats de police, ainsi que l'UNSA Police, demande ce soir au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une décision d'apaisement face à la contestation suscitée par la réforme de la police judiciaire. Et cela au lendemain de l'éviction du patron de la PJ de la zone sud, limogeage provoqué par un mouvement d'humeur silencieux mais spectaculaire des policiers marseillais lors de la visite jeudi du patron de la police nationale. Cette décision a provoqué l'incompréhension dans les commissariats, des rassemblements de policiers dans plus de 40 villes hier après-midi. Mais à Marseille, la contestation continue et les armes sont rangées. Écoutez Thomas, il est capitaine à l'OFAST, l'office anti-stupéfiant.
Concrètement, on a déposé les armes en réaction à cette façon de procéder de notre hiérarchie qu'on ne comprend pas. On est sous le coup de la surprise. On n'est même pas sous le coup de la colère, encore qu'elle soit assez présente. Mais on remise nos armes au coffre et elles resteront au coffre. Juste, on les reprendra dans le cadre des permanences opérationnelles. C'est tout. On a suspendu certaines opérations, particulièrement en stup. On a interrompu des opérations qui étaient en cours. Il y avait des opérations prévues dès lundi matin aussi, qui ont été reportées sine die. Oui. Nous, on demande à être entendus parce que nos missions sont importantes pour l'avenir de notre pays. Et d'après nous, elles ne seront pas garanties dans l'avenir. Voilà. Nous, on a besoin de fixer un cadre à l'exercice futur de la police judiciaire à l'investigation parce que nous sommes convaincus que les missions de la police judiciaire sont essentielles à la sécurité de nos concitoyens. Tel qu'il est présenté, le futur exercice de l'investigation en France n'offre pas les garanties de défense contre la criminalité organisée à nos concitoyens.
Voilà, donc un capitaine de l'office anti-stupéfiant à Marseille, propos recueillis par Étienne Baudu, et cette attitude des policiers marseillais pourrait maintenant être suivie dans d'autres villes dès lundi. Il est l'une des stars de cette semaine de prix Nobel, le français Alain Aspect, prix Nobel de physique. Et en attendant de faire le voyage de Stockholm pour récupérer ce prix, eh bien il continue de sillonner la France régulièrement pour des conférences ouvertes au public. Et pas besoin d'être un expert en physique quantique pour y assister. C'est un vrai spectacle qui fait carton plein. Et ça même si l'intitulé peut créer le doute, comme à Hendaye aujourd'hui pour cette conférence des ondes de Fresnel aux photons d'Einstein. Reportage Denis Grandjoux.
Oui, c'est vrai, ici sur le front de mer à Hendaye, Alain Aspect, c'est vraiment la star de l'après-midi, même si, objectivement, tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il fait.
Alors là, faut pas m'en demander de creuser trop la question, hein. Moi, je suis pas du tout une scientifique.
Comme j'aime pas trop quand on dise que Einstein s'est trompé, etc., je voudrais insister sur un point. C'est Einstein qui a découvert dans le formalisme quantique qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'intrication.
Alain Aspect est venu à la rencontre de tous les curieux, tous les amoureux des sciences, sans se départir de son humour.
Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir.
Ah bon, d'accord.
Et ça, c'est pas compréhensible dans votre tête ni dans la mienne, mais par contre avec les mathématiques de la physique quantique.
Et comme il n'est pas question que je termine ce reportage sans que vous ne compreniez, Vincent, exactement de quoi il s'agit, eh bien, j'ai tenté une explication grâce à des personnes que j'ai interviewées.
Alors moi, on m'a expliqué que c'était par rapport aux atomes. Apparemment, il a découvert un nouveau échange entre les particules.
C'est difficile. Les zéros sont pas vraiment des zéros, les uns sont pas vraiment des uns.
Il va me falloir un doliprane après ce reportage.
Ah, vous n'avez pas tout compris, Denis Grandjoux, j'ai l'impression, moi non plus. Denis à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques pour RTL. Avant la page sport, on fait un petit tour par la place de la Bastille, car à moins de 2 ans des Jeux de Paris, eh bien, on accueille là-bas une centaine d'athlètes valides ou paralympiques pour la première journée paralympique. Une centaine d'athlètes présents pour une rencontre avec le public. Vous y avez assisté, des échanges, mais aussi l'occasion de tester certaines disciplines. Bonsoir Mourad Djabari.
Bonsoir.
Le public a répondu présent en tout cas.
Oui, présent et bruyant aussi, notamment en fin d'après-midi pour l'affiche, le match au sommet entre les Belges champions d'Europe et l'équipe de France de basket en fauteuil.
Ah, ils sont forts, hein, surtout le numéro 11.
Je sais pas comment ils font, mais ils sont trop forts. Ils arrivent à mettre des paniers à l'autre bout.
T'as vu, ils se déplacent vite en plus. Hein.
Ouais.
Allez, voilà.
On voit que même s'ils sont handicapés, ils font ce qu'ils aiment. Et ils sont très forts.
Et c'est la première fois que vous voyez des personnes en fauteuil jouer au basket?
Dans la vraie vie ou... Oui, dans la vraie vie.
Oui, dans la vraie vie.
Quand on peut en voir, ça en profiter.
Bien souvent, c'était la première fois que les curieux du jour assistaient et rencontraient ces sports paralympiques et ces sportifs de haut niveau à mobilité réduite ou qui ont un handicap. Il était temps que cette journée paralympique existe, selon Florent Manodou, le multimédaille.
Les regards changent petit à petit. Moi, je pense que c'est important de montrer aux gens le sport en e-sport, parce que je pense qu'on a, entre guillemets, peur. Tant que les gens voient, les gens comprennent, discutent avec des sportifs valides ou des sportifs en e-sport, ils comprennent que voilà, c'est des sportifs comme les autres et que voilà, ils font des performances sportives comme les autres. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir des journées comme ça.
Des sportifs qui feront eux aussi les beaux jours des JO 2024 à Paris.
Mourad Djabari, place de la Bastille pour cette première journée paralympique. Allez, une courte pause et dans un instant, le foot, l'OM et la Coupe du Monde.
RTL Soir avec Vincent Parisot.
Allez, le foot avant la Coupe du Monde, la 10e journée de Ligue 1, Marseille-Ajaccio, Vélodrome, on en est où Eric Martin ?
Pour les Ajacciens, la surprise générale, un premier quart d'heure marseillais qui s'est soldé par un pénalty transformé par Dimitri Payet qui a marqué son 100e but avec Marseille. Moussiti Eko à la 25e, puis un contre son camp du défenseur marseillais Balerdi ont permis aux Ajacciens de mener 2-1. On joue depuis 65 minutes ici au Vélodrome.
Voilà, donc 2-1 pour l'instant pour Ajaccio. Merci Eric, à tout à l'heure ce soir 21h, Reims-PSG à suivre dans RTL Foot. Sachez qu'en Ligue 2, Bordeaux a battu Metz 2-0. Donc la Coupe du Monde poursuit son tour du monde avant le début de la compétition le 20 novembre. Elle fait escale pour 3 jours à Paris. Elle est ce soir au premier étage de la Tour Eiffel, exposée pour quelques privilégiés dont vous êtes, Benjamin Pelsi.
Oui, je suis à quelques mètres d'elle avec les rares chanceux qui ont gagné le droit de la voir et de la voir seulement. Le trophée le plus convoité du football est sous vitre, plexiglas, sous une très haute sécurité. Mais au vu de la taille des sourires pour les gens qui sont présents ici, eh ben la seule présence de la coupe suffit. Loïc, 28 ans, ne redescend toujours pas de son nuage.
C'est très bizarre. C'est un peu un rêve d'enfant qui devient réalité parce que moi je suis fan de foot depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et puis j'ai toujours rêvé de ce trophée-là. On le voit à la télé et puis là il est vraiment en face de nous et puis on se dit oh, je suis la personne la plus proche de ce trophée sur toute la Terre. C'est assez indescriptible en fait. Sa taille m'a surpris parce que je m'attendais justement à ce qu'il soit beaucoup plus petit que ça. On a l'habitude de le voir assez loin donc on a l'impression qu'il est tout petit. En fait vraiment j'ai été surpris par ses dimensions mais au-delà de ça il est vraiment magnifique. Moi ça fait une demi-heure que je suis là, je fais que le regarder. Voilà.
Alors en tout ce sont moins de 400 personnes qui pourront voir la coupe aujourd'hui et demain elle sera exposée au stade de Pierre de Coubertin.
Merci Benjamin et avant de vous retrouver dans quelques minutes pour une édition spéciale dont refait le match avec Christian Olivier et ses invité au pied de la Tour Eiffel. Eh bien, parole au sponsor de cette opération comme de ce mondial au Qatar, Coca-Cola. La patronne de Coca-Cola France, Paige Guillot, s'est confiée à Nicolas Georgiou.
C'est incroyable d'avoir la chance d'avoir le trophée ici. Le trophée Tour, c'est quelque chose que nous faisons depuis 16 ans. Pouvoir s'approcher du trophée, on va pouvoir offrir cette opportunité à environ 4000 Français, avoir cette opportunité vraiment unique. Et il n'y a que les anciens champions et le chef de l'État qui a le droit de toucher ce trophée.
Est-ce que votre marque a hésité ou a pu hésiter ou pas par rapport à ce qui se dit notamment avec cette Coupe du Monde au Qatar?
Nous sommes bien sûr sensibles de tout ce qui se passe autour de la Coupe du Monde de 2022. Et nous voulons profiter de ce moment de pouvoir vraiment rappeler la positivité du football, ce qui est en accord avec les valeurs d'inclusivité, de diversité, d'universalité.
Il faut accompagner plutôt que boycotter?
Je ne peux pas faire de commentaires sur boycotter. Effectivement, nous savons qu'il y avait des choix qui ont été faits. Nous avons fait le choix et nous restons convaincus qu'effectivement, accompagner ça, et d'être partenariat de la FIFA, ça nous permet de pouvoir influencer envers, faire une différence vers cette positivité, de travailler avec la FIFA, de pouvoir amener à un futur plus positif.
Paige Guillot, la présidente de Coca-Cola France avec Nicolas Georgiou. Donc rendez-vous avec cette Coupe du Monde dans 5 minutes. Sachez que Didier Deschamps annoncera la liste des Bleus pour le Mondial le mercredi 9 novembre dans le journal de TF1.
Mon métier, ma passion, Armel Lévy.
Bonsoir Armel.
Bonsoir.
Ce soir, on va à l'intérieur de l'église Saint-Augustin à Paris à la rencontre de Clara Wynne sur son échafaudage parce qu'elle est restauratrice, conservatrice du patrimoine, spécialiste en métal.
C'est du cristal de baccarat.
Magnifique.
Oui. Et donc c'est un lustre qui en fait est suspendu dans une chapelle et donc on avait des problèmes de chute de cristaux. La décision a été prise de changer toutes les attaches et il y en a plus de 200.
Sur un seul lustre?
Sur un seul lustre et celui-ci n'est pas très grand.
Et votre métier consiste en quoi?
Alors en fait, je suis conservatrice restauratrice. Donc on utilise ces deux mots parce que on est donc restaurateur du patrimoine, c'est-à-dire qu'on intervient quand les objets sont en souffrance, mais on intervient également aussi sur tout ce qui est conditions de conservation et l'environnement des objets. Donc il y a des interventions qui sont directement sur les objets eux-mêmes et certaines interventions qui sont plus autour des objets.
Quelle qualité faut-il pour exercer votre métier?
Il faut être créatif dans les solutions. Donc on n'est pas créatif sur les objets puisque on travaille dans le respect de l'existant, mais par contre il faut être toujours prêt à trouver des nouvelles solutions pour des problèmes qui sont sans cesse différents.
Il faut être ingénieux quoi.
Voilà, c'est ça. Notamment pour le matériel, on se fournit un peu partout. Ça nous arrive de travailler avec du matériel de dentiste, du matériel de cuisinier. On va puiser un peu là où on trouve ce qui nous sert.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
J'avais envie d'un travail concret où il y aurait une différence quand on se lève le matin et quand on rentre chez soi le soir. On a des personnes qui s'arrêtent spontanément pour nous dire qu'ils sont contents qu'on entretienne des objets qui sont importants pour eux. On exerce tous notre métier de manière différente aussi. Donc ici, on avait un lustre en verre et métal. Donc on a des spécialistes du verre et des spécialistes du métal. On s'en doute pas, mais les musées sont de vraies ruches. Il y a vraiment plein de corps de métier qui savent faire et c'est très 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 vivant.
Là, vous êtes à votre compte?
Oui, tout à fait. Je suis en entreprise individuelle et je travaille à 95% pour l'État.
D'accord. Donc en fait, vous n'êtes pas salarié des musées?
Non, je suis en indépendant et je suis prestataire de services. Et on peut travailler partout en France, aussi de temps en temps à l'étranger.
Ah, vous allez où?
Je pars personnellement à la fin de la semaine en Ouzbékistan sur un projet avec le Louvre et l'Institut du Monde Arabe. On ne s'ennuie pas. Ça, c'est vraiment une chance.
Voilà, elle ne s'ennuie pas. Elle a encore beaucoup de projets. Merci Armel. À la semaine prochaine.